Mandrin. Deuxième partie, chapitre 10. Le roi Louis XV. Louis XV avait écouté le récit de Nicole sans l'interrompre une seule fois. Tout d'abord, il n'avait pas semblé y prendre un plaisir extrême. Mais, peu à peu, à mesure que Nicole, avec cette franchise ingénue et cet esprit naturel qui la caractérisait, lui retraçait les péripéties de son extraordinaire aventure, ses yeux s'animaient, un léger sourire entr'ouvrait ses lèvres. Le roi s'amusait. Et c'était un événement si rare que la marquise, très favorablement impressionnée, ne cessait d'encourager sa cousine par d'adroits signes de tête qui achevaient de rendre courage et donner espoir à la charmante solliciteuse. Lorsqu'elle se tut, Louis XV était radieux. Depuis fort longtemps, en effet, il ne s'était autant diverti. Et il trouvait cette histoire vécue infiniment plus piquante que les petits potins de cour, les anecdotes des gazettes et même les rapports secrets de police qu'il se faisait communiquer chaque jour. Saisissant la main de cette jolie narratrice qui était restée debout devant lui, il reprit en donnant à son sourire une expression quelque peu égrillarde. « Décidément, ce mandrin est un heureux drôle !» Mais Nicole s'écriait en rougissant. « Pas encore, sire. Que signifie ?» Nicole, fort intimidée, baissa la tête et garda le silence. « Voyons, parlez !» encourageait Louis XV, dont la curiosité était fort éveillée. Et il ajouta en tapotant la joue de la jolie Madame Mandrin. « Voilà un dénouement auquel je ne m'attendais guère, et je suis fort désireux d'en connaître les causes. »«
Sire, s'enhardissa Nicole, je vais tout vous dire. Le soir de nos noces, il s'est produit un incident qui m'a inspiré la décision de venir me jeter à vos pieds. Mon mari, ayant appris qu'un de ses compagnons avait été fait prisonnier, a voulu voler tout de suite à son secours, et il m'a quitté au moment où...
Où ?
Nous allions franchir le seuil de la chambre nuptiale.
J'avoue, riait franchement le roi, que je n'aurais pas eu un tel courage.
Sire, riposta Nicole, Mandrin est de ceux qui font passer le devoir avant l'amour.
Alors, c'est un héros,
ironisait finement Louis XV.
Oui, sire, répliquait la fille des Malicés avec une belle crânerie.
Et, achevant de s'animer tout à fait, elle poursuivit. « Ne croyez pas, sire, que le brusque départ de mon mari m'ait laissé insensible. J'ai beaucoup pleuré, et c'est alors que M. de Voltaire, dont je vous ai décrit tout à l'heure la généreuse hospitalité, m'a déclaré que si je parvenais à obtenir de votre majesté la grâce de Mandrin en même temps qu'un brevet d'officier aux armées, il était certain que mon mari était appelé aux plus brillantes destinées.
C'est aussi mon avis.
Alors, je n'ai pas hésité, et sans attendre son retour, je suis partie, confiante en la bonté dont votre majesté vient déjà, en m'écoutant avec tant de patience, de me donner une preuve inestimable.
Décidément, scanda Louis XV, vous êtes une drôle de petite mariée. Qu'en pensez-vous, marquise ?
« Je pense, sire, répliqua Madame de Pompadour, persuadée que Nicole avait gagné sa cause, que M. de Voltaire a donné à ma cousine un excellent conseil.
« M. de Voltaire,
reprenait le roi, dont le visage s'était rembruni,
est certain grand poète, dont j'estime infiniment le talent, mais c'est un dangereux philosophe dont je ne puis que réprouver les idées. Et si vif soit mon désir d'être agréable à votre charmante cousine, je ne puis lui accorder la grâce de son mari.
« Sire !» s'écria Nicole en pâlissant.
« Votre majesté, insistait la favorite, s'en voudra, j'en suis sûr, de faire pleurer ces beaux yeux-là.
« Je m'en veux déjà, déclarait Louis XV.
mais ainsi que Mandrin, ne suis-je pas obligé de faire passer mon devoir avant mon amitié ?
Soyez clément, sire, intervenait la marquise.
Votre ami, monsieur de Voltaire, répliquait le monarque, a, je le sais, écrit quelque part que la clémence devrait être la coquetterie des rois. Malheureusement, les actes de Mandrin ne me permettent pas d'avoir envers lui une pareille faiblesse.
Sire, s'écria Nicole, si vous m'accordiez la faveur que je sollicite, le peuple vous bénirait d'avoir gracié son sauveur.
L'amour, mon enfant, vous fait perdre la tête.
Non, sire, c'est ma raison qui vous parle, d'accord avec mon cœur.
Faites que je reparte avec un ordre de grâce, et je vous jure qu'il n'est pas une chaumière de votre royaume où le nom de Louis le bien-aimé ne sera vénéré comme celui d'un père.
Louis le bien-aimé, répétait le roi avec un accent de mélancolie.
Celui qui, depuis si longtemps, avait cessé d'être un roi, un époux, un père, celui qui ne savait même plus être un amant et n'avait pas, comme son aïeul Louis XIV, l'excuse du génie pour masquer ses déchéances, allait-il, en un geste hardi, il est vrai, et même d'une gravité dont il ne se dissimulait pas les conséquences, rappeler au monde que la France avait toujours un roi et que ce roi, en graciant Mandrin, en prenant parti nettement pour lui contre les oppresseurs, ouvrait une ère nouvelle, en donnant lui-même le signal d'une révolution attendue et nécessaire. C'était un véritable coup d'État que Nicole, sans s'en douter, demandait à Louis XV d'accomplir. Et la femme d'intelligence supérieure, qu'était Madame de Pompadour, le comprenait à merveille. Et mieux encore peut-être que le principal intéressé.
« Sire, reprenait la favorite, avec une gravité que Louis XV ne lui connaissait pas, permettez-moi, à mon tour, de faire appel à votre bonté. »«
Comment ? Vous aussi, madame ?»«
Oui, sire. Je vous suis trop grandement et trop sincèrement attaché pour ne pas saisir avec empressement l'occasion de vous en donner la preuve. » Cet enfant vous apporte le moyen de reconquérir l'affection de votre peuple, en infligeant un désaveu formel à ceux qui, en votre nom, à l'abri de votre autorité, le rançonnent et le ruinent chaque jour davantage.
« Marquise, s'exclamait Louis XV, vous parlez comme vos protégés de l'encyclopédie.
Voltaire, Diderot, d'Alembert, sire, sont de grands écrivains.
Oh, dites de mauvais esprits.
Sire, ce sont vos flatteurs qui le prétendent. J'ose espérer que moi, votre véritable ami, j'aurai plus de poids dans la balance de votre justice que vos courtisans, qui ne songent qu'à leurs intérêts ou à leurs plaisirs.
Louis XV eut un geste agacé. Sans doute était-il plus fatigué que convaincu de cette discussion qu'il commençait à trouver fastidieuse. Cependant, il subissait néanmoins l'ascendant de la favorite qui avait su trouver les mots qu'il fallait pour le mettre en face de réalité que, dans son appréhension maladive d'être obligé de songer à l'avenir, il avait toujours volontairement méconnu. Entrevit-il le gouffre creusé sous la monarchie ainsi que le rôle admirable qu'il pouvait remplir, s'il eût été un vrai roi de France, c'est-à-dire un conducteur de peuple, uniquement préoccupé d'affermir son pouvoir et d'assurer le sort de sa dynastie, non par de grands coups d'autorité despotique, mais au moyen de promptes et salutaires réformes. Mais, en cette rapide vision de vérité, il entrevit aussi toutes les difficultés d'une pareille tâche. En se rangeant ouvertement du côté des petits, il s'aliénait les grands. Non seulement toute cette noblesse férue de privilèges qui allait se dresser contre lui, mais encore tous ses ministres, tous ses fonctionnaires sur lesquels reposait l'édifice même de l'État, et son hésitation, se traduisit par ces paroles.
« Que diraient les fermiers généraux ?»
Cette fois, ce fut Nicole, qui bravement riposta. « Sire, si vous connaissiez les calamités que causent ces gens dans tout votre royaume, si, comme moi, vous aviez assisté aux véritables martyrs de ces malheureux, dépouillés de leurs biens, si vous les aviez vus, errant dans la campagne, obligés de chercher un abri dans les bois, si vous aviez entendu les cris de ces petits-enfants, les sanglots de ces mères, oui, si vous vous étiez un jour rencontré face à face avec l'un de ces troupeaux de misère qui sillonnent les routes de vos provinces, ce n'est pas Mandrin qui ferait la guerre aux fermiers généraux. C'est vous, sire, qui les feriez pendre. » Nicole s'était exprimée avec une telle flamme qu'on eût dit que c'était la France qui parlait par sa bouche.
« Sire, crut pouvoir ajouter Madame de Pompadour, ne laissez pas plus longtemps fermenter tout ce levain de révolte qui menace votre trône et votre personne.
Mais, en un ressaut de fierté ancestrale, Louis XV s'écria
« Marquise, un roi de France ne cède jamais à la crainte !»
Et désireux d'échapper à l'émotion qui le gagnait, il allait s'éloigner. Nicole, croyant que tout était perdu, se jeta dans les bras de sa cousine qui l'embrassa tendrement. Louis XV les regarda un instant, puis il eut un sourire énigmatique et quitta le boudoir. Nicole, toute secouée de désespoir, murmurait au milieu de ses sanglots.
« C'est fini !» Le roi refuse.
Attendons encore. Je suis sûr que vous l'avez intéressé et même ému.
Oui, mais il va demander l'avis de ses ministres et surtout de ce terrible lieutenant de police qui est si acharné à perdre mon mari.
Ne suis-je pas là pour combattre son influence?
Vous êtes la meilleure des parentes, la plus dévouée des amies, et j'avais raison de compter sur vous. Mais ne m'en veuillez pas de vous parler ainsi. Tant que je n'aurai pas l'ordre de grâce signé par Sa Majesté, je ne serai pas tranquille.
« Ma chère petite amoureuse, murmurait la marquise, allons, ne pleure pas ainsi. Le roi n'aime pas les visages tristes et les yeux rouges. Et j'entends que ce soir tu assistes à mon souper, car je n'ai pas dit mon dernier mot. Et si, comme je l'espère, Sa Majesté est de bonne humeur, je compte bien, au dessert, lui arracher sa signature.
Oh, pour cette bonne parole, laissez-moi vous embrasser. »
Toute réconfortée, Nicole fit claquer sur les joues de sa cousine deux bons baisers. Mais bientôt, une petite porte en tapisserie s'ouvrait lentement, et Louis XV apparaissait et s'avançait vers les deux cousines qui causaient à voix basse. À la vue du roi, elles se levèrent, et Louis XV, toujours silencieusement, remit à Nicole toute tremblante un papier qu'il tenait à la main. Nicole lut à haute voix.
« Tel est notre bon plaisir. Nous faisons grâce au sieur Louis Mandrin, condamné par le Parlement de Grenoble à être roué vif, et ordonnons qu'il soit laissé en liberté, sous condition qu'il contractera un engagement dans l'un de nos régiments. Fait en notre palais de Fontainebleau, en l'an de grâce 1751. Louis. »
Nicole, transportée de joie, allait tomber aux genoux du roi, mais celui-ci la releva en disant
« Je vous ai dit, mon enfant, que je ne cédais jamais à la crainte. » Mais je sais toujours pardonner à l'amour. »
Et il appuya ses lèvres sur le front de Nicole, qui, riant et pleurant à la fois, ne savait comment lui exprimer sa reconnaissance. Puis, la remettant à la marquise, radieuse, elle aussi de cette belle victoire, il ajouta
« Renvoyez vite cette belle enfant, car il ne me déplairait pas d'être son troisième mari. Mais je jure que je ne la laisserai point s'échapper de rechef le soir de ses noces. »
L'air satisfait, Louis XV allait se retirer, mais,
Enhardie par tant de bienveillance, Nicole reprenait. « Votre Majesté va dire que j'abuse de son immense bonté. »«
Parlez, mon enfant. »«
Je connais Mandrin. »«
Eh bien,
je ne doute point qu'il ne se montre, comme moi, profondément reconnaissant envers votre Majesté et qu'il ne tienne à le lui prouver par un dévouement sans limite. »«
J'y compte ferme, » déclarait Louis XV,
décidément subjugué par la grâce de Nicole, qui poursuivait. « Mais Mandrin n'acceptera sa grâce que s'il est certain que ses compagnons ne seront point inquiétés. »«
Tu Dieu, ma belle, que vous êtes exigeante !»«
Sire, accordez-moi cette dernière faveur. » »«
Ah, puisque je suis aujourd'hui en veine de clémence, je ne saurais rien vous refuser. »
Et s'emparant de l'ordre de grâce, Louis XV traça en marge ces mots qu'il fit suivre de son paraphe.
« J'entends que la dite grâce soit accordée aux mêmes conditions à tous les complices de Mandrin. »
Et, remettant le document à Nicole, il reprit.
« Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter beaucoup de bonheur. »
« Sire, s'écria Nicole, en embrassant la main que lui tendait le roi. « Je n'oublierai jamais ce que je dois à votre Majesté. »«
Ce soir, » déclarait le bien-aimé, « je compte bien vous voir au souper de la marquise. »
Madame de Pompadour répliquait avec un fin sourire.
« Sire, ne m'avez-vous pas recommandé de faire partir tout de suite ma cousine ?»«
C'est fort juste, » admettait Louis XV.
« Mais j'espère bien que nous nous reverrons. »
Mais la favorite, avec une expression de malice charmante, reprenait.
« Sire, rappelez-vous que Mandrin vole parfois la femme des autres, mais qu'on ne prend jamais la sienne. »
Malgré toute la sympathie que lui inspirait Mandrin, le colonel de la Morlière était résolu à mener rondement sa campagne et en finir une bonne fois pour toutes avec le capitaine général des contrebandiers. D'abord, il avait passé une inspection minutieuse de son régiment d'Argoulet, et il avait donné à ses officiers, aussi bien qu'à ses soldats, les instructions les plus rigoureuses, promettant une forte récompense à qui capturerait Mandrin et menaçant de représailles les plus sévères ceux qui le laisseraient échapper. Puis, il avait divisé son régiment en trois portions égales, envoyant la première renforcer les gendarmes et les douaniers chargés de surveiller la frontière, prenant la seconde sous son commandement direct, en vue de la bataille prochaine, et gardant la troisième en réserve, au cas toujours possible, où la résistance de Mandrin se ferait par trop opiniâtre. Or, depuis son entrevue avec la Morlière, on eût dit que Mandrin était devenu invisible, ou tout au moins insaisissable. Tout cela n'était pas sans préoccuper vivement le colonel. Aussi, bien qu'il lui répugnât d'employer ce qu'il appelait dédaigneusement « les gens de police », il avait dû néanmoins accepter, d'accord avec Bourré-d'Érigny, les services de pistolet, qui se faisaient fort de lui procurer tous les renseignements dont il avait besoin pour mener à bien sa difficile entreprise. L'exempt, qui brûlait du désir de prendre une prompte et éclatante revanche, s'était littéralement multiplié. Il avait même poussé l'audace jusqu'à pénétrer de nouveau par le souterrain de Saint-Barnabé jusqu'au château de Bon-Repos, où Mandrin continuait à résider en attendant le retour de Nicole. Et, caché dans la garde-robe de la marquise de Montferrat, il avait surpris une conversation fort intéressante du capitaine avec ses principaux lieutenants. Mandrin, en effet, pendant ces quelques jours de trêve, avait rassemblé autour de lui tous les effectifs des contrebandiers dont il disposait, c'est-à-dire environ 2000 hommes, avec lesquels il prétendait mettre en déroute l'armée de la Morlière. Approvisionné en armes toutes neuves, ayant à sa portée de véritables magasins de poudre et à sa disposition
une excellente cavalerie qu'il s'était procurée aux foires de Romont et de Noyon en Suisse et de Carouge en Savoie, il avait décidé de passer la frontière le dimanche suivant avec l'élite de ses troupes et d'enlever, en plein territoire français, la caisse de l'entreposeur des tabacs de Vizille. Pistolet s'était empressé d'avertir le colonel Lamorlière, et celui-ci, qui n'attendait que l'occasion de livrer bataille, quittait Grenoble dans la journée du samedi avec ses argoulés. Dans la nuit, il atteignit le petit village de Guérat, situé à quelques portées de fusil de Vizille, où il avait envoyé quelques émissaires chargés de lui signaler l'arrivée de Mandrin. Mais Mandrin, lui aussi, ne manquait pas d'espion, qu'il l'avait immédiatement prévenu des dispositions belliqueuses de Lamorlière. Loin de renoncer à son expédition, il l'avait au contraire organisée de telle sorte que la surprise n'allait pas être pour lui, mais pour ses adversaires. À la tête de 500 cavaliers et de 500 fantassins, au jour et à l'heure dit, il franchissait la frontière, bousculant les gendarmes et les douaniers de garde, et il arrivait comme une trombe dans la petite cité de Vizille, où Lamorlière et ses argoulés ne tardaient pas à le rejoindre. Et ce fut une mêlée indescriptible qui se termina par la défaite de Lamorlière. Le colonel laissait sur le carreau plus de 150 morts, sans compter les blessés, et deux de ses officiers durent l'entraîner par force du champ de bataille, sans quoi il était fait prisonnier.
« Quand on pense que ce Mandrin m'a fait battre en retraite, moi,
écumait-il,
je suis à jamais déshonoré. »
Et lorsque le soir, il rentra à Grenoble, à la tête de sa petite armée, il était dans un tel état de fureur et de désespoir que ses aides de camp eurent toutes les peines du monde à l'empêcher de se brûler la cervelle. Non moins grande fut la fureur de Bourré d'Érigny à l'annonce de ce désastre, et, le soir même, il décidait de partir pour Paris afin d'aller exposer lui-même la situation au lieutenant de police et de se concerter avec les autres fermiers généraux. Mais Bourré d'Érigny n'était pas au bout de ses déceptions et de ses surprises. En arrivant à Chalon-sur-Saône, au moment où il pénétrait dans la grande salle d'une hôtellerie où il avait décidé de passer la nuit, la première personne qu'il aperçut, installée devant une table et finissant de souper, ce fut Nicole. Un moment, il crut qu'il était l'objet d'une hallucination. Mais non, c'était bien elle, calme, souriante, reposée, plus jolie peut-être encore dans le charmant costume de voyage que lui avait donné la marquise de Pompadour qu'elle ne l'était sous ses voiles de mariée. Cette fois, le fermier général crut qu'il tenait une partie de sa vengeance et, s'avançant vers Nicole qui ne l'avait pas aperçue, il s'écria sur un ton plein d'autorité menaçante « Que faites-vous ici, madame ?»